Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Aladdin et la lampe merveilleuse, Ali Baba et les 40 voleurs, Sinbad le marin, ces histoires revisitées par Hollywood sont un peu les arbres qui cachent une forêt de récits réunis sous le nom des Contes des Mille et Une Nuits. Et c'est à cet ouvrage plein de charme et de mystère que Franck Ferrand s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Les Contes des Mille et Une Nuits sont un petit peu la vitrine occidentale de la littérature arabe. Les histoires célèbres que vous venez de citer, Julia, font la joie des enfants, mais depuis la traduction non expurgée de Sir Richard Burton à la fin du 19e siècle, les parents y cherchent aussi une part d'érotisme. Bien, vous allez voir qu'en vérité, ces récits vont bien plus loin que tout ça. Ils ne sont spécifiquement ni destinés aux enfants, ni réservés aux adultes.
Alors vous avez invité pour en parler les co-narrateurs d'un recueil de ces fameux récits.
En effet, Malek Chebel, que connaissent nos auditeurs et qui a signé un dictionnaire amoureux des Mille et Une Nuits, et Claude Durand, qui a longtemps présidé aux destinées de Fayard, et ils nous livrent tous les deux un joli recueil. C'est une version revue en quelque sorte des Contes des Mille et Une Nuits, et c'est vous dire qu'ils connaissent très bien l'œuvre originale.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Chassant la nuit, Scheherazade dut interrompre son récit. Cette phrase ponctue-t-elle un leitmotiv la longue série des histoires constituant les Mille et Une Nuits, et c'est en effet l'argument du recueil. Vous connaissez l'histoire, le roi Shahriar, trompé par sa première femme, qu'il avait retrouvée dans les bras d'un esclave noir, ce roi s'est juré qu'on ne l'y reprendrait plus, et désormais, il n'épouserait que des vierges, il les épouserait le soir, et au matin, elles seraient tuées. Alors, pour mettre fin à ce carnage, la fille du vizir, la merveilleuse Scheherazade, supplie son père de lui laisser épouser le roi. Or, à la demande, certains disent de sa suivante, d'autres de sa sœur, Duniazade, elle commence à raconter une histoire en présence de Shahriar. Seulement, lorsque point le jour, elle laisse son récit en suspens jusqu'au lendemain soir, et forcément, pour connaître la suite, le roi lui laisse chaque fois la vie sauve, ou l'art de conter comme argument de survie. Voilà bien l'absolu de la littérature narrative, le récit à la vie, à la mort. À la fin, après mille et une nuits de bons et loyaux services de conteuse, Scheherazade, qui a eu le temps de donner au souverain une postérité à tous les sens du terme, se voit graciée, triomphe de l'imagination. Bien entendu, ce beau concept est seulement le cadre des Mille et Une Nuits. L'argument, le prétexte et surtout le lien qui cimente et qui fait tenir ensemble toute une somme composite d'histoires, d'auteurs, d'époques, d'origines très divers. C'est le cadre, ce n'est pas la structure, car au-delà du récit salvateur, d'une Scheherazade en sursis, ce qui constitue les Mille et Une Nuits, c'est toute l'imbrication de grands et de petits récits, s'emboîtant les uns dans les autres comme autant de tiroirs secrets. Scheherazade raconte l'histoire du bossu qui lui-même raconte celle du tailleur, lequel tailleur nous gratifie dans un jeu vertigineux de miroirs et de mise en abîme des tribulations du barbier. Voici un récit à 3 à 4 niveaux, 5 même, si l'on ajoute le ou les narrateurs qui mettent en scène Scheherazade elle-même. C'est que tout l'univers est contenu dans ces Mille et Une Nuits. Je cite Malek Chebel à l'article « Modernité subversive » de son très beau dictionnaire amoureux des Mille et Une Nuits. « Les Mille et Une Nuits se déroulent ainsi, écrit-il, comme un testament. Ils nous déroulent tous les aspects de la vie de la naissance à la tombe. Il y est question de mariage et de répudiation, de maladie, de magie aussi, d'esclaves en abondance, d'animaux domestiques et d'animaux mythologiques, de djinns, de monstres et de métamorphoses, d'êtres humains, enfin, de toute complexion et de toute origine. La vie urbaine, fort animée et même grouillante, est extrêmement présente à travers les corporations qui la composent, mais aussi au travers des multiples transformations magiques et des substitutions. » Et Malek Chebel ajoute « Divertir et instruire, il n'y a pas que cela dans les Mille et Une Nuits qui se présentent par ailleurs comme une contre-culture avec un modèle de société qui s'oppose radicalement à celui de la tradition corsetée de l'islam. De toutes les épopées littéraires arabo-persanes, les Mille et Une Nuits restent l'une des plus foisonnantes et celles qui, 10 siècles après leur naissance supposée, inspirent toujours l'homme épris de conte, le rêveur impénitent ou le voyageur en mal d'aventure. » Vous voyez, comme un conte peut en cacher mille autres, vous pensiez partir pour Bagdad et ses souks miroitants d'émaux et de soieries saturées d'épices et de fumée d'encens, et vous voilà dans la plus moderne, dans la plus borgésienne des constructions littéraires. Qu'on se le dise, les mille et une nuits ne se résumeront pas à quelques péripéties orientales. À travers elles, c'est tout un pan de la psyché humaine qu'on nous invite à explorer.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités Franck aujourd'hui sur Europe 1, Malek Chebel qui est anthropologue et historien de l'islam, traducteur du Coran, et Claude Durand, écrivain. Il a dirigé les éditions Fayard de 1980 à 2009.
Bonjour à tous les deux, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Alors vous avez eu une excellente idée, vous vous êtes dit qu'il était peut-être temps, non pas de dépoussiérer les mille et une nuits, parce qu'elles n'ont peut-être pas besoin de ça, mais de leur rendre, de les restituer au public dans une forme très moderne, et vous les avez en quelque sorte réécrites, Malek Chebel.
On les a véritablement réécrites au fond, parce que l'esprit du XVIIIe siècle, c'est l'esprit dans lequel elles sont nées vraiment dans la langue française, n'est pas celui d'aujourd'hui. Les attentes du public ne sont pas les mêmes. Les âges et les niveaux même d'approche des milléniaux ne sont pas les mêmes. Je crois que sociologiquement parlant, la société a tellement évolué qu'il était nécessaire, si vous voulez, d'adapter un peu dans le temps.
Ce qui donne envie, par ailleurs, d'aller lire les
l'original.
Traductions.
Nous, il voilà. y a une translation permanente, non seulement entre notre traduction et la traduction de Galland, qui est la première traduction en français, mais également à toutes les traductions, y compris l'arabe, y compris même, si vous voulez, les thèmes qui ont été développés par la suite, le cinéma, les arts, le Kafkans et tout ça.
Bien sûr, on va parler de tout ça dans le cours de cette émission.
C'est une traduction ouverte.
Mais on comprend pas
Claude
très
Durand.
Bien. La nécessité de réécrire Les Mille et Nuits, si on ne part pas du principe que c'est de la littérature orale à l'origine, et que ces contes qui sont venus de très loin, d'Inde, de Perse, également de l'entourage de la cour abbasside avec Haroun al-Rachid, de l'Égypte, des Mamelouks, même du Maghreb, c'est un corpus très composite. Mais ça a été charrié par des vecteurs, soit des caravanes, soit des marins, soit surtout les femmes dans des lieux de bavardage, que ce soit le hammam, que ce soit le bazar, que ce soit le harem. Donc c'est une transmission orale et par conséquent, elle a subi toutes les transformations qu'on peut deviner, qu'ont connu les grandes œuvres orales, comme l'Odyssée, comme toutes les textes de l'Antiquité qui étaient modifiés au fur et à mesure par les aèdes, par exemple en Grèce, qui racontaient. Donc, on a le droit, d'une certaine manière, de recomposer à chaque génération.
C'est dans le patrimoine de l'humanité.
Ce qu'on vient d'entendre. Oui. Ou de lire, on a le droit de le restituer par sa propre voix. Et c'est ce que d'ailleurs Borges voulait dire par livre de sable, c'est-à-dire livre qu'on peut remodeler à chaque fois.
Une sorte de palimpseste infini.
Exactement.
Voilà. Alors,
je rajouterai un mot, on a le droit, on a le devoir. À mon avis, pour les mille et nuits, parce que précisément étant un conte oral, aujourd'hui on peut aussi espérer, rêver à voir nos propres mille et nuits d'aujourd'hui, si vous voulez. Et dans le dictionnaire amoureux de l'islam, que vous avez eu le gentillesse de citer tout à l'heure, Dictionnaire amoureux des mille et une nuits
oui.
des éditions Plomb, j'ai fait rencontrer Scheherazade avec Om Kulthum. Et avec
La Scheherazade moderne.
Vous voyez, donc j'ai fait ces dépassements, ces transvasements, et je pense que c'est ça exactement l'esprit des milléniaux.
Alors je vais y rajouter encore un mot, si tu permets, si vous permettez.
Non, je vous en prie.
Voilà. Comme c'est de la littérature orale, ça s'adressait à un public qui devait être attentif, mais il fallait une certaine pédagogie, donc il fallait répéter les mêmes choses, de façon que les noms des personnages s'ancrent dans
toutes
la tête.
Toutes les littérations du récit, bien sûr.
Donc, la transcription, normalement, littérale, donne ces répétitions, ces redondances, etc. Et nous, on a essayé de débarrasser le récit de tout cela, qui rend le texte original assez lisible, finalement, en tout cas, très lourd, très lent. Et donc, on a simplifié le récit pour en prendre la substance narrative et donner des sortes de nouvelles modernes, si vous voulez.
Et ces nouvelles, au départ, c'était des chroniques dans la revue, et j'en profite pour signaler ce magazine qui n'est pas encore très connu, mais qui mériterait de l'être bien davantage, car c'est un magazine d'une très haute tenue auquel vous collaborez beaucoup, Claude Durand.
Je collabore un peu aussi.
La revue, ça s'appelle, c'est en kiosque.
Le grand timonier de cette revue, Béchir Ben Ahmed, qui a eu l'intelligence et la présence d'esprit de nous réunir précisément autour de cette œuvre.
Béchir est le fondateur de Jeune Afrique.
Alors, vous l'avez dit, Claude Durand, il y a un instant, à l'origine des Mille et Une Nuits, il y a des textes et des traditions différentes. Ça remonte très loin, certains disent à l'Inde et même peut-être à la Chine. C'est vraiment très loin dans le temps et dans l'espace, tout ça.
Ce qui est sûr, c'est que Scheherazade et les narratrices de ces contes, parce que j'ai une hypothèse derrière la tête dans tout cela, les narratrices de ce conte ne se sont jamais interdits, si vous voulez, de faire des incursions à l'Inde, à la Perse évidemment, ils étaient essentiellement perses, et à la Chine et même au Maghreb, à l'océan Indien. Sinbad a surtout sillonné l'océan Indien. Si l'Iliade et l'Odyssée, si l'Odyssée était plutôt méditerranéenne, on va dire que les Mille et Une sont plutôt océan Indien. Et donc ils ne se sont jamais interdits, si vous voulez, de voyager mentalement dans toutes les cultures. Et donc je dis que les Mille et Une Nuits, c'est le texte le plus xénophile puisse exister, parce qu'il a fait de l'étranger, de l'étrange et de l'étranger, son mode d'existence, son mode de fonctionnement. Et c'est très intéressant comparativement à notre société d'aujourd'hui, si vous voulez, qui est un peu frileuse. À Bagdad, Harun al-Rachid, précisément le grand calife, allait au coin de la rue et cherchait les étrangers de passage pour connaître leur culture et leurs origines.
Il y a donc un grand brassage, en quelque sorte, dans l'origine de ce texte, qui est consigné, mis par écrit d'une façon définitive, assez tardivement, au XIVe siècle, XIIIe-XIVe.
Sous forme de manuscrit.
Oui, hein, voilà.
On connaît, ça commence à prendre forme à partir de l'an 1000 à peu près. Voilà. Mais ça n'existe que par des copistes. Et les copistes eux-mêmes sont source de modifications. Voyez, donc l'œuvre continue au fur et à mesure, grâce à des erreurs, des variantes, à se modeler, à se changer. C'est une œuvre en perpétuel devenir.
Cette œuvre mouvante est très ancienne. Il va encore lui falloir trois bons siècles pour qu'elle soit découverte par les Occidentaux. Elle le sera grâce à Antoine Galland. Nous y venons dans un instant. Et ça va avoir un impact considérable. C'est le début de l'orientalisme, disons-le. Et on sait que jusqu'à nos jours, tous les créateurs ont été inspirés par les Mille et Une Nuits. Écoutez par exemple ce qu'en a fait Maurice Ravel.
Scheherazade sur Europe 1, c'est un extrait de la suite symphonique composée par Rimsky-Korsakov.
Oui, non, pas Maurice Ravel, parce que j'avais eu l'intention. Il y a aussi une Scheherazade de Maurice Ravel.
C'est vrai.
Finalement, on a passé la suite symphonique de Rimsky-Korsakov. C'est dire justement la richesse de cette inspiration pour les musiciens aussi. On va voir tout à l'heure ce qu'en ont fait les cinéastes. Auparavant, il faut que nous parlions de cet homme par qui tout arrive en France, en tout cas, et donc en Occident. C'est Antoine Galland. Antoine Galland, on est là à la fin du règne de Louis XIV, en 1704 à peu près. Hein.
Absolument, 1704. C'est un Picard. C'est un Picard qui, pour la mythologie et pour la bonne bouche, on va dire qu'il est monté à pied de Picardie, donc à Paris, pour trouver Pitance, de cette manière. Parce qu'il était assez pauvre, et donc il cherchait quelqu'un, un curé qu'il prenait sous son aile, et c'est comme ça qu'il a commencé. Hein. Donc il a gravi les échelons, il est devenu un bibliothécaire.
À Caen, je crois.
Un bibliothécaire à Caen.
Oui.
Moi, j'ai sauté déjà l'étape pour aller directement à Colbert et Leroy et compagnie. Donc, en tout cas, il s'est fait remarquer par son soin méticuleux et par sa curiosité, son ouverture d'esprit, sa culture aussi, parce que déjà, il commençait à être polyglotte. Et donc, il est envoyé en Orient pour chercher des curiosités, des objets.
Il est envoyé en Orient avec une mission, hein, c'est bien ça.
Une mission officielle.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est une sorte d'ambassadeur culturel.
Une sorte d'explorateur, voilà.
D'ambassadeur culturel pour enrichir la bibliothèque du roi.
Et c'est là qu'il découvre donc cette suite de récits. Mais ça ne s'appelle pas encore Les Mille et Une Nuits à l'époque. Hein.
si ça s'appelait les mille et une nuits, mais enfin au départ déjà dans la tradition arabe, ça s'appelait beaucoup de contes au départ. Ah. C'est déjà au Xe siècle que ça s'appelait beaucoup de contes. Mais l'expression beaucoup de contes, c'est d'où est sorti les mille et une nuits, mais vous avez bien compris que le et une nuit, enfin, la nuit supplémentaire, si vous voulez, au-delà des mille, est aussi importante que le mille. Vous voyez,
c'est ça, bien sûr.
C'est ça l'importance de la nuit supplémentaire. Et donc elle s'appelait beaucoup de contes, traduction. C'est mille et nuits. Certains ont voulu faire juste les plus grands nombres de contes, etc. En tout cas, Galland leur donne la forme définitive de mille et une nuits. C'est entre 1704 et 1714. Et donc, on a la première version, si vous voulez, par écrit. On va dire presque le testament écrit des mille et nuits sous la plume de Galland, qui était un nouvelliste absolument fantastique. Tellement.
Qui va faire le succès.
Qui va faire le succès. Comment on appelle ça, le feuilleton.
Voilà,
c'est le feuilleton.
Voilà.
C'est sous forme de feuilleton. Et quand il tombait malade, on venait crier sous sa fenêtre, Galland, il nous faut encore.
Il en a publié 12 volumes, hein, je crois.
Oui, ouais, exactement. Voilà.
C'était mais en même temps, il a un peu éteint quand même le côté parfois un peu osé des récits.
Oui, il a expurgé le texte original.
Voilà, c'est-à-dire l'érotisme a disparu.
Il y a des vulgarités, voilà, toutes sortes de...
Non, à un moment donné, il a dit, on arrive à la chambre de nuptiale, moi je m'arrête là, et je laisse les amants...
Je ne pousse pas la porte, oui.
Et c'est Mardrus par la suite qui remet...
Alors au 19e siècle, Mardrus va remettre... de la luxure et même
de l'érotisme pur.
Enfin, je veux dire, avec...
Quand vous dites qu'il va en remettre, c'est-à-dire qu'il en invente ou qu'il traduit ce qui existe?
Les deux.
Il fait les deux. Oui,
les deux. Alors, sur l'orientalisme au XVIIIe siècle, bon, il faut naturellement rappeler les lettres persanes, enfin, il y a énormément de textes. J'ai d'ailleurs découvert qu'une de nos anciennes excellences, Laurent Vauquier, qui a été premier à l'agrégation d'histoire, a fait son diplôme sur l'orientalisme au XVIIIe siècle, les mille et une nuits.
Ah oui.
Voilà, donc ça montre même encore aujourd'hui. Voilà.
Ah oui, vous vous rendez compte.
Voilà. Ce mouvement-là s'est développé alors au XIXe avec tous les voyages en Orient. Alors depuis Byron, Flaubert,
Nerval,
Maxime Ducamp, Nerval, Fromentin, et jusqu'à Pierre Loti.
Maupassant, voilà. Loti.
Donc ça a été et les peintres naturellement.
Et les peintres, bien sûr.
Les mille et nuits ont été illustrés par Chagall, par Van Dogen. Enfin bon, il y a eu.
Et les arts décoratifs, ne l'oublions pas, qui vont se mettre à l'heure de l'Orient.
Et la musique, comme vous l'avez signalé tout à l'heure.
Moi, je pense que les mille et nuits ont façonné vraiment le regard occidental sur l'Orient. Et ils ont donné à l'Orient un côté sympathique, un côté humain, un côté sensible, un côté presque vertueux, dans le sens où il était capable de porter une beauté, vous voyez, de porter un sentiment amoureux.
Il y a eu un très grand intérêt pour ce texte au XVIIIe siècle. Au XIXe, vous l'avez dit, il y a ces nouvelles traductions qui apportent tout le soufre nécessaire.
Et tout un suc
nouveau, bien entendu. Et puis, on a l'impression quand même que vers la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en dépit de Ravel et de Rimsky-Korsakov, on a l'impression que ça perd un peu de son éclat. Et notamment, moi j'ai été assez frappé, vous savez que j'ai une grande documentation sur tout ce qui a pu être publié de vieux articles historiques. Et dans ce que j'ai pu chercher depuis quelques jours, en tout cas en préparant cette émission, entre 1950 et 1991, il n'y a pas un seul... Articles sur des milliers de revues, vous imaginez ?
Non mais c'est normal, c'est un phénomène culturel et politique qui coïncide avec l'éveil des nations. Mm-hmm. Et les nations, quand elles retrouvent une identité, ne veulent pas tomber dans une sorte de folklore. On le constate dans le monde arabe, on le constate avec l'Amérique latine par exemple. Si on réduit la culture d'une nation à son folklore, enfin ce qui est connu en Europe et qu'on peut considérer comme une sorte de tradition, donc de folklore au sens propre du terme, à ce moment-là il y a une sorte de réaction nationaliste, mmh, chauvine, qui dit nous ne sommes pas ça, nous ne sommes pas réductibles à ces histoires-là. Voilà. C'est ce qui explique donc cette relative relégation.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, et on en aura fini avec l'évocation de ces traductions pour en venir à la matière même et pour entrer dans ces mille et une nuits, si vous le voulez bien, ce qu'il faut dire, c'est que le texte sous forme d'un livre est né au départ en Orient même, dans le monde arabe lui-même.
Non, au départ, c'est en France.
Oui, c'est ça, il est né, c'est ce que j'allais dire, de la traduction de Galland.
Ah, c'est la traduction de Galland qui va inaugurer, qui va ouvrir le champ à toutes les autres traductions, y compris la mise, y compris en arabe. C'est que l'arabe est venu après coup. C'est la première, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un texte originel d'une région donnée puisse passer d'abord par sa traduction avant de naître en tant que texte original.
C'est arrivé après avec les systèmes totalitaires, je te signale.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on a pu publier, par exemple, moi j'ai publié beaucoup de textes russes,
oui,
ou d'Europe de l'Est.
D'abord en français.
D'abord en français, avant qu'ils soient publiés naturellement.
Oui, mais il y avait des systèmes totalitaires.
Il y avait des systèmes totalitaires. Alors que là, c'est simplement...
Le sentiment religieux était déjà bien fort dans le monde arabe et on ne voulait plus voir, si vous voulez ça, il y avait une sorte d'autisme ou de cécité culturelle qui ne voulait pas voir en Scheherazade la modernité du monde arabe.
Donc on a bien compris, pour résumer cette complexité, qu'on part de textes disparates qui viennent de sources différentes et très lointaines, qui sont mis en forme par les Perses, qui deviennent un véritable ensemble de récits assez tard, au XIIIe, XIVe siècle, autour de Bagdad essentiellement. Et puis ensuite, c'est cette traduction de Galan qui va donner naissance aux Mille et une nuits en tant que telles, qui seront elles-mêmes retraduites ensuite en arabe, en perse,
dans toutes les langues.
Et puis bien sûr, à partir du 19e siècle, de nouvelles traductions, un peu moins expurgées, qui vont être plus complètes et qui donnent des Mille et une nuits la vision que nous en avons, nous, aujourd'hui.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui s'intéresse maintenant aux Mille et une nuits au cinéma.
Et oui, vous savez que la consécration des Mille et une nuits dans l'imaginaire occidental, c'est bien par le cinéma qu'elle est advenue. Combien sont-ils les films occidentaux? Parce que je mets tout de suite de côté des cinémas par ailleurs très prolifiques, comme le cinéma indien par exemple. Combien sont-ils les films d'Europe et d'Amérique à s'être directement ou indirectement inspirés du fameux recueil 250, 300, certains disent 320, des comédies et des comédies musicales bien entendu, relayées par de récents et nombreux dessins animés, mais aussi et peut-être surtout dans un premier temps, des films d'aventure aux frontières du fantastique, comme le beau Septième Voyage de Sinbad de Juran en 1958, qui est un film plein d'effets spéciaux très réussis, à la fois très simple et très frappant. Et évidemment, les Mille et une nuits se prêtent particulièrement bien à ce type de traitement. L'Orient que nous propose le grand écran à travers ce thème inépuisable est bien souvent simpliste, disons-le, pour ne pas dire caricatural. Il y a une grosse part de folklore, pour reprendre l'expression qu'a tout à l'heure employé Claude Durand, surtout dans les premiers films au temps du cinéma muet. Dès 1902, Ferdinand Zecca propose un court-métrage de 10 minutes sur le sujet d'Ali Baba. C'est que Méliès aussi va s'en mêler, etc. Tous les grands du cinéma muet, du reste, ont à un moment ou à un autre été inspirés par ce thème. Ce sujet d'Ali Baba inspirera par ailleurs et plus tard de très nombreux cinéastes. Nous avons tous plus ou moins à l'esprit Tony Curtis dans le rôle-titre à Hollywood en 52, ou deux ans plus tard en France, évidemment, et je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs attendent cela, Fernandel dans le film Immortel de Jean Becker.
Ali, Ali, Ali Baba, de la mosquée à la Casbah. Quand on m'aperçoit, ce n'est qu'un cri. Bonjour Baba, adieu Ali. Toujours content, jamais pressé, je n'ai qu'à me laisser pousser. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis mektoub, Inch'Allah.
Ah, Ali Baba, évidemment, Fernandel faisait des Mille et une nuits quelque chose d'un peu étrange, disons-le. Mais au cinéma, nous dit Claude Aziza, l'important est dans l'évocation magique d'un univers régi par les lois du merveilleux. Ces lois, on les voit à l'œuvre dans maint épisode de la saga, transposée dans le Moyen-Âge. On les retrouve chez le poète homérique, nous dit Claude Aziza, elles jalonnent la quête du Graal. Mais nulle part, elles ne sont aussi présentes que dans l'univers des Mille et une nuits. Au-delà d'un schéma cinématographique souvent conventionnel, inspiré du film d'aventure traditionnel avec bons et méchants, belles princesses et courageux héros, ce qui fait la force et la prégnance de ce cinéma, c'est la permanence d'objets magiques et la démonstration que seul l'invraisemblable est ici vrai. Alors il y a l'appareil, hein, des Mille et une nuits, tapis magique, cheval volant, lent, lampes merveilleuses, génies bienfaisants, magiciens diaboliques, monstres ailés, velus, griffus, poilus, fleurs mystérieuses, métamorphoses. C'est tout cet univers mythologique d'un Orient revisité, évidemment, qui transparaît dans les films inspirés des Mille et une nuits. La plupart de ces films, ne l'oublions pas, sont des grands films d'aventure essentiellement, hein. Le personnage de Scheherazade, par exemple, a été extrêmement peu utilisé et interprété au cinéma. on pense bien sûr à deux actrices talentueuses hein, qui ont joué de leur charme dans les années 40 à 60, Maria Montez et Yvonne De Carlo, qui ont été des Scheherazade au grand écran. Mais essentiellement, ce sont bien les princes vaillants, ce sont bien les marins héroïques qui ont été mis en avant. Et alors là, il y en a eu énormément. L'un des plus célèbres films de cette veine-là, c'est bien entendu Le voleur de Bagdad. C'était en 1940, un film de Ludwig Berger. Côté péplum aussi, enfin c'est du cinémascope
oui.
En fait, on est en technicolor là sur Europe 1 à 13h35. Alors ce qui est plus intéressant peut-être, c'est ce que les cinéastes des années 60 et 70 vont faire des Mille et Une Nuits. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sort du registre purement dénotatif, on n'est plus dans la simple narration, dans le fantastique et dans le conte héroïque, on entre dans... parfois le conte philosophique, parfois la réflexion sur la vie, sur la société. L'un des cas les plus célèbres, c'est bien sûr les Mille et Une Nuits de Pier Paolo Pasolini, dont nous parle bien sûr Malek Chebel dans son Dictionnaire amoureux des Mille et Une Nuits. Œuvre sulfureuse, nous dit-il, qui mêle autant la sexualité païenne sans règle aucune que le travestissement, la bisexualité et l'homosexualité. À sa sortie, les Mille et Une Nuits eurent un effet encore plus imposant que L'odeur de l'Inde ou Les Ragazzi, le premier roman du réel. Réalisateur. Et Malek Chebel, vous citez à ce moment-là ce qu'écrivait Pasolini. « Ce qui m'inspire, c'est de voir le destin à l'œuvre activement en train de décaler la réalité, non pas vers le surréalisme et la magie, mais vers la déraison révélatrice de vie qui ne prend son sens que si l'on fait un film réaliste, rempli de poussière, de visages pauvres. Mais j'ai fait aussi un film visionnaire où les personnages sont dans un état de ravissement et poussés malgré eux par un désir anxieux de connaissance dont l'objet est ce qui leur arrive. » Évidemment, avec plus de 300 films occidentaux consacrés aux Mille et Une Nuits, vous comprenez bien que je ne vais pas faire un tour complet. Citons tout de même, bien sûr, le film de Philippe de Broca en 90, hein, qui a eu un certain succès en France. Et puis, bien entendu, alors, la série des films des studios Walt Disney qui ont profondément, extraordinairement repopularisé, si je puis dire, les Mille et Une Nuits et qui en ont fait un must pour toutes les jeunes générations. Un petit extrait, si vous voulez, pour finir, de la BO d'Aladin de Walt Disney. C'était en 1992 et la musique était composée par Alan Menken.
Un court extrait d'Aladin sur Europe 1, la BO de Walt Disney. Franck vous l'a dit, à tout de suite pour la suite des Mille et Une Nuits.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours en compagnie de Malek Chebel et de Claude Durand pour parler des Mille et Une Nuits aujourd'hui sur Europe 1.
Et ce que dit Claude Durand, qui est très juste, c'est qu'on revient par le biais de la bande dessinée
voilà,
aussi. Hein,
voilà, les films de Walt Disney ont redonné finalement une exploitation en livre, mais cette fois-ci en livre, images et textes avec les bandes dessinées.
Et vous aviez, j'allais dire, un intérêt particulier pour le film de Pasolini dont vous nous disiez, oui, Malek Chebel, qu'il a été tourné au Yémen, en fait. Hein.
Oui, oui, les décors, décors naturels au Yémen, peut-être aussi un bout en Érythrée ou en Éthiopie. Dans tous les cas de figure, Pasolini, l'esprit dans lequel c'est placé Pasolini m'intéresse beaucoup, au plus haut point, parce que précisément il est à la marge d'une sexualité qu'on veut enfermer, qu'on veut endiguer, parce qu'on est quand même dans des territoires de l'islam, etc. Et les gens n'osent pas sortir de ce cadre-là fermé, un peu rigide. Et Pasolini a été, me semble-t-il, le premier parmi les cinéastes à explorer tous les potentiels, tout le virtuel, sexuel, et parasexuel des Mille et Une Nuits. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il a replacé en quelque sorte la sexualité, c'est-à-dire que le désir au fond de ces contes-là, qui était un peu écrété par tous les traducteurs. Et puis, il a permis à la femme de se retrouver au centre un peu de la problématique, bien que lui, il était, comme vous savez, homosexuel. Et donc, il a payé un peu pour ça. Et je crois que le film a beaucoup aidé à ça,
justement,
à son assassinat. Et donc, je dois. Vous dites que les femmes n'étaient pas présentes. Moi, je pense que les Mille et Une Nuits ont collé un peu à la réalité et les femmes sont devenues de plus en plus présentes à partir des années 70-80 avec la révolution des mentalités, la révolution sexuelle, voilà. On va dire.
Mais c'est pas totalement propre aux Mille et Une Nuits. Hein. Il a fait ça avec les contes de Canterbury.
Oui, exactement.
C'est-à-dire redonner un sexe à la littérature, finalement.
Ah, ben c'est très bien.
Et avec le Decameron.
C'est excellent. Ouais.
Alors, ce qui est assez extraordinaire, bien entendu, c'est la présence des femmes dans ces histoires. Voilà. Et alors, vous avez, vous, à ce propos, Malek Chebel, une théorie un peu particulière. Vous nous dites que ces récits, ils seraient spécifiquement féminins.
Absolument. Ce n'est pas une théorie particulière. À mon avis, c'est la théorie centrale des Mille et Nuits. Je crois qu'on ne comprendrait pas vraiment la force des Mille et Nuits et leur pérennisation, le fait qu'elles aient traversé quand même les siècles et les âges. Elles ont 10 siècles actuellement d'existence, si on ne met pas en perspective la place de la femme en islam et dans le monde arabe. On a voulu colmater, on a voulu l'enfermer, on a voulu l'interdire. On a tout fait pour l'empêcher, si vous voulez, de venir et d'exister au plan public. Et par le biais des contes, et par le biais de l'imagination, par le biais du talent, de l'intelligence, de la beauté, du sexe et du désir, la gestion du désir, elles sont toujours revenues à l'actualité, enfin au devant de l'actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je dis que c'est une création féminine, c'est que les thèmes abordés par les Mille et Une Nuits sont des thèmes qui concernent essentiellement les hommes. Je crois qu'il faut... Il faut être vraiment une femme pour connaître aussi bien la libido masculine. Et ce sont surtout des thèmes de modernité. Et la femme, me semble-t-il, dans le monde arabe, a toujours symbolisé une modernité d'avance sur l'ensemble de la société. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on redécouvre les Mille et Une Nuits, parce qu'on redécouvre un peu la femme et la place de la femme dans le contexte arabe ou musulman.
Et au début de cette émission, je lisais un extrait d'un de vos articles sur la modernité subversive des Mille et Une Nuits, où vous disiez que toute la vie de la naissance à la tombe se trouve dans les Mille et Une Nuits. C'est bien une vie conçue d'une façon féminine et maternelle, en quelque sorte. C'est bien la vie quasi biologique que l'on retrouve développée sous toutes ses formes à travers les différents contes.
Oui, et même dans les Mille et Une Nuits, vous aurez des personnages qui symbolisent l'ensemble des âges de la femme, l'ensemble de ses talents aussi. Il y a un conte qui s'appelle Tawaddud dans les Mille et Nuits. On voit une femme savante, en quelque sorte, qui prend le pas sur l'ensemble des savants autour du calife, juste parce qu'elle est une femme talentueuse et qu'elle n'avait pas la possibilité de le dire. Lorsqu'on lui a fourni la possibilité de s'exprimer, elle s'est avérée la plus savante de tous.
Alors justement, Claude Durand, ce qui est assez frappant lorsqu'on se promène en quelque sorte dans les Mille et Une Nuits, c'est la présence permanente de tous les thèmes qui sont des thèmes qui ne sont pas seulement ceux du 10, 11, 12e siècle. Hein. Ce sont des thèmes assez universels sur le pouvoir, sur la trahison, sur l'itinérance aussi. Le voyage est très présent dans ce livre.
C'est-à-dire qu'il y a, c'est une œuvre foisonnante et multiple. Et c'est vrai qu'on a tous les thèmes universels, finalement, de toutes les littératures. C'est-à-dire le rapport de l'homme et de la femme, le rapport du jeune et du vieux.
On comprend que ça avait passionné Marcel Proust, hein, par exemple.
Ah bah, Marcel Proust, qui avait les deux versions, et dont la mère interdisait qu'il consulte la version de Mardrus, parce que c'était la plus osée. Voilà. Mais il en a fait un abondant usage, absolument.
Est-ce qu'on peut parler d'une œuvre totale, en quelque sorte?
Oui, en ce sens-là, que c'est comme tous les grands chefs-d'œuvre, ce sont des œuvres enracinées, mais à portée universelle. C'est-à-dire qu'on peut, toute la racine est effectivement les civilisations du Moyen-Orient ou de l'Orient, mais le traitement, mais la façon dont on peut les comprendre, les appréhender, sont valables pour toutes les civilisations. À tel point qu'on retrouve des thèmes communs. On peut très bien, par exemple, dire que l'histoire de Sinbad le marin, c'est Ulysse.
Ah oui, c'est une odyssée. Alors, comme vous dites, elle n'est pas située en Méditerranée spécifiquement.
C'est l'Odyssée de l'océan.
Prenez l'histoire de la jeune princesse qui a un bracelet de cheville et qui va, grâce à ce petit bracelet qu'elle perd, va épouser le fils du sultan. C'est Cendrillon.
C'est un peu Cendrillon.
C'est Cendrillon, c'est Charles Perrault qui va récupérer cette histoire. On retrouve dans tous les thèmes, vraiment, des repiquages, si je puis dire, au sens disque du terme, dans toute la littérature de tous les âges.
Au milieu du XXe siècle, c'était Vassili Prop qui s'était intéressé à la structure des contes, à partir des contes russes en l'occurrence.
Absolument.
Et il s'était rendu compte qu'en fait, tous les contes de toutes les civilisations reprennent presque toujours de grands thèmes invariants. Ce sont des archétypes, en quelque sorte, hein, qu'on retrouve d'une civilisation
comme si
à l'autre.
C'était une métalangue vraiment universelle qui traitait de ces histoires.
Mais alors, sauf que dans le cas de ces Mille et Une Nuits, ce sont des thèmes qui sont connotés Orient, si je puis dire. Est-ce qu'on peut...
Oui, parce que évidemment, l'interdiction, si vous voulez, la mixité en Orient n'est pas d'un usage courant. Donc, comme il y a, si vous voulez, une séparation des hommes et des femmes, donc une séparation fondée sur le sexe, dès le départ, il a fallu que les femmes, si vous voulez, créent un monde parallèle, fondé sur la ruse, l'intelligence, fondé sur la séduction, sur la capacité d'être un pôle attrayant, attractif pour les hommes, pour qu'il y ait une circulation du désir. Et donc, par définition, c'est connoté Orient, déjà sur cette base-là, biologique, si vous voulez. Par la suite, il y a l'oralité. L'oralité aussi, l'Orient est connu pour son oralité. Alors, l'un des thèmes les plus fondateurs des Mille, c'est que ça passe de l'oral à l'écrit. Et à l'écrit, les Mille et Nuits sont le troisième texte après la Bible et le Coran à être traduit dans les langues étrangères. C'est quand même très étonnant de voir ça. Et en quoi c'est universel aussi, si vous voulez. Les gens se sont emparés de ce sujet-là et l'ont traduit dans leur langue et ils s'en sont incarnés dedans, illustrés dedans. Et toutes ces métamorphoses sont d'une modernité incroyable.
Vous avez d'ailleurs participé à la publication, vous avez écrit les textes des délices des Mille et Une Nuits chez Grund.
Oui.
Alors là, on s'inspire des banquets si riches décrits par Scheherazade pour proposer des recettes.
Illustré par Kamel Mouzawa, qui est un grand chef libanais. Et on a fait un livre, en effet, fondé sur la gastronomie, parce qu'il y a toute
une gastronomie
dans les Mille et Une Nuits.
Alors on va entrer, si vous voulez, dans un certain nombre d'histoires maintenant. On va voir quelles histoires vous racontez dans ces Mille et Une Nuits racontées par Malek Chebel et Claude Durand, et on ira au-delà d'Aladin, de Sinbad et d'Ali Baba, bien entendu.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Canal, c'est un extrait de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, Franck.
Alors, ce qui est très intéressant dans l'ouvrage que vous publiez tous les deux, Malek Chebel et Claude Durand racontent les Mille et Une Nuits aux éditions IDM, c'est qu'en fait, vous avez cassé, si je puis dire, la structure en abîme et en tiroir pour adopter une structure beaucoup plus occidentale en série, comme on dit, c'est-à-dire avec des chapitres qui se suivent, tout simplement. C'est une autre structure. On n'est plus dans cette espèce de vertige, en quelque sorte, Claude Durand. On est plutôt dans la narration, alors là, pour le coup.
On est dans un recueil de nouvelles.
C'est ça,
c'est
voilà.
C'est-à-dire qu'il y a la forme moderne du conte. D'ailleurs, dans les langues étrangères, un cuento en espagnol, c'est l'équivalent de la nouvelle. Hein.
On retrouve quand même Scheherazade, on retrouve Shahriar, etc. Mais comme les premières nouvelles, en quelque
comme
sorte.
Comme des récits autonomes.
Voilà, c'est ça.
Certains forment des séries, comme Sinbad.
Voilà.
Mais d'autres, les autres sont totalement autonomes. Hein, voilà, c'est un...
Vous disiez à l'instant que Sinbad, c'était un peu le Ulysse arabe, en quelque sorte, enfin oriental. Oui. Mais ce Sinbad, vous lui donnez quand même une place importante. Il y a 4 ou 5 chapitres qui lui sont consacrés.
Oui, parce que nous avons pensé à tous les publics. Et moi, particulièrement, je suis très attentif au public des enfants. Il faut que les enfants trouvent leur compte, si je puis dire. Et Sinbad leur donne la possibilité de pouvoir dormir en paix à travers ses voyages, parce que ça se termine toujours bien avec Sinbad, c'est un omané. Vous savez, au sultanat d'Oman, quand vous allez à Oman, on vous dit la maison de Sinbad, elle est là, elle est bâtie à Sour, dans le sud du pays, et ils y ont construit même un musée en hommage à Sinbad. Or, comme vous savez, Sinbad, Sherazade, ce sont des personnages
de fiction. Oui.
Donc, c'est vous dire que chacun construit, si vous voulez, la demeure de Sherazade, comme il entend.
On a bien la maison d'Arsène Lupin, nous, à
voilà, d'accord. Donc, nous, on a conçu le livre avec Claude Durand comme un livre linéaire, mais riche de multiples histoires à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les personnages importants des Mille et Une Nuits sont là. Nous avons fait une sélection rigoureuse.
On en trouve aussi de moins connus.
Il
y a des histoires, je parlais de Borges tout à l'heure, il y a cette histoire de la bibliothèque. Là, ça, c'est assez magnifique. Racontez-nous ça, Claude Durand. Allez, passons à l'oral.
C'est ma préférée, parce que d'abord, c'est celle qui clôt le récit. Parce que, c'est un jeune prince qui hérite, qui a une certaine fortune à dépenser, et qui, au lieu de convier à des bonbons, des ripailles, etc., va inviter un tas de gens, la ville entière, à des nourritures spirituelles, c'est-à-dire à la connaissance. Et ça, c'est vraiment le symbole des Lumières. C'est le grand repas universel, le grand repas collectif. Pour moi, c'est un peu aussi le symbole de la constitution de la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple. Voilà, c'est réunir. Ça, c'est très borghésien, c'est aussi.
C'est
réunir l'ensemble des connaissances pour l'ensemble des gens. Voilà. Donc, c'est vraiment un texte très, très, très fort pour moi et qui montre que cet appétit de savoir, de lumière, était déjà présent là, dans cette narration. Et le symbole de la lutte contre l'obscurantisme, finalement, et l'intégrisme.
C'est ainsi que tous les jours à la tombée de la nuit, les nécessiteux de la ville, les quémandeurs de savoir, les mendiants de la philosophie, les derviches de la spiritualité, les imams avides de perfectionner leur doctrine, ont pu, des années durant, se réunir sous la coupole de la maison de tous les savoirs et prier ensemble, lorsque le savoir est prière. C'est le titre même de cet ultime chapitre. Alors évidemment, il y a des choses plus légères. On parlait tout à l'heure de Cendrillon, puisqu'il y a cette correspondance. On a un harpagon chez vous aussi. C'est l'histoire des babouches.
Ils sont nombreux. Je veux dire, ce que je trouve spectaculaire avec les Mille et Nuits, c'est que dans chaque catégorie sociale, vous avez toute une diversité de caractères qui sont toujours bien définis, bien décrits. Si vous voulez, c'est vraiment cinématographique comme description au fond. Et comme ça s'imbrique au fur et à mesure, donc on s'ennuie jamais.
Les babouches, c'est aussi la structure du récit des babouches, c'est aussi les histoires à ricochet, un peu comme les voyages qui ont plusieurs escales. Là aussi, c'est comment s'en débarrasser, comme dirait UNESCO. Comment se débarrasser de ces choses puantes et dégueulasses qui collent, en fait, qui suivent toujours. Et donc, on les jette dans le fleuve, elles surnagent, elles empoisonnent les poissons. Bref, il y a toujours des rebondissements, vraiment des ricochets dans ces histoires.
Enfin, juste pour le voyage, avec Claude Durand, on a cherché quel était le conte qui devait clore les Mille et Nuits. Et donc, c'est Claude Durand qui a pris le pas sur moi en disant il faut mettre la bibliothèque idéale de ce jeune prince qui veut réunir le monde entier autour de sous sa coupole, parce que ça donne de l'espoir, ça donne de l'ouverture, et les contes continuent à être racontés par d'autres.
On pourrait en faire d'ailleurs une adaptation télévisée. Je suis en train de penser à ça de votre ouvrage. Là, ça ferait de très joli. Déjà eu du reste. Il y a eu dans les années 90
Des petites pastilles.
Oui,
si Franck Ferrand nous trouve un producteur,
l'appel est lancé.
Ça fait 50 épisodes.
Ça sera une cinquantaine d'épisodes magnifiques.
Il y avait en Perse un roi dont les sujets étaient des Grecs, naguère acclimatés dans ce pays. Ce roi était atteint d'une maladie de peau, la même qui sévissait partout dans ces parages depuis nombre d'années. Ça y est, moi ça me rappelle les contes qu'on nous lisait quand j'étais tout petit à l'école. On ouvre le grand livre et on lit Il y avait, et ça y est, on est dans le médecin grec son roi. Il faut dire en deux mots, c'est une belle
parabole.
Voilà, c'est que c'est un médecin qui finalement a une maladie imaginaire, qui est l'ennui, voilà, hein, qui est l'ennui du pouvoir. Et donc, le médecin qui va le soigner, parce qu'il y aura un tas de charlatans qui sont passés, ou de spécialistes même, qui lui auront prescrit des médicaments qui n'ont aucun effet. Et c'est celui qui va lui dire, bah, faites un peu d'exercice, sortez, allez prendre l'air, dépensez-vous physiquement, qui va l'emporter, voilà. La sagesse, voilà. Ce sont des livres de sagesse aussi, hein, Les Mille et Une Nuits. De morale au sens La Fontaine du terme, hein, voilà. De la fable, de la sentence, voilà. C'est le bon sens populaire qui est là.
Qui triomphe.
Pierre nous demandait au début de cette émission, c'était un message qui est arrivé par Facebook, il nous disait l'islam persan autorisait les représentations de visages. Pourquoi est-ce qu'on est revenu en arrière depuis? Pour cet iconoclasme, cette interdiction de représenter les visages dans l'islam?
En fait, au fond, il n'y a jamais eu d'interdiction formelle, il n'y a jamais eu de fatwa, si vous voulez, au sens propre du terme, à l'encontre de la représentation de la vie humaine. On a toujours pensé que l'islam était interdisait les représentations. En fait, non. Il ne les a jamais interdites, réellement. Mais quelques théologiens, si vous voulez, archaïques, ont décidé de leur propre chef d'interdire un certain nombre de représentations sous prétexte que ça concurrençait l'œuvre de Dieu. Sous prétexte que ça concurrençait l'œuvre de Dieu, mais il n'est écrit nulle part, ni dans la tradition, ni dans le Coran, qu'il est interdit de représenter le visage de l'être humain, par exemple. Sauf que, évidemment, le respect qu'on doit au prophète a fait que les gens s'éloignent d'eux-mêmes, par autocensure presque, de ça. Mais je vous fais remarquer néanmoins que la Perse, depuis 6 siècles, depuis les Safavides, représentait tout et n'importe quoi, y compris même les animaux mythologiques, etc. Donc il n'y a pas d'interdit majeur et explicite. Donc il y a juste une frilosité liée au fait que le prophète était une image sacrée qu'on devait ne pas représenter.
Et je le dis à nos auditeurs, si vous voulez bénéficier de l'incroyable iconographie qu'a suscité ce recueil des contes des Mille et Une Nuits, vous pouvez la retrouver dans un hors-série découverte de Gallimard qui s'appelle tout simplement Les Mille et Une Nuits d'Élodie Bouffard et Anne-Alexandra Joyard. Et on a là des représentations absolument somptueuses. Comment sont-elles perçues dans le monde arabe, justement, ces représentations occidentales de contes orientaux?
Alors, représentations occidentales et Les Mille et Une Nuits elles-mêmes, certaine manière, qui ont été à plusieurs reprises, qui ont failli être étouffé par, là encore, les fondamentalistes qui ont édicté des lois tout à fait absurdes, notamment en Égypte, pour les interdire dans les années 80, il y a plusieurs reprises, alors même que l'Égypte est l'un des pays qui est fondateur, si je puis dire, des Mille et Une Nuits. C'est eux qui ont donné toute l'impulsion des voyages, notamment, c'est les Égyptiens. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu incroyable où les Mille et Une Nuits, production universelle de l'esprit venue du monde arabe, risquent d'être étouffé par les fondamentalistes.
Et puis vous savez qu'à l'Institut du Monde Arabe, une exposition sur les Mille et Une Nuits est ouverte depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et cette exposition, vous pouvez la voir jusqu'au 28 avril prochain. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous raconter les Mille et Une Nuits. Malek Chebel et Claude Durand racontent les Mille et Une Nuits. C'est édité chez IDM. Et puis de Malek Chebel, ce dictionnaire amoureux des Mille et Une Nuits, le dictionnaire amoureux de la collection de Jean-Claude Simoen chez Plon, dont je me suis beaucoup inspiré pour faire cette émission, comme vous avez pu le constater. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver dans le sillage de Sherazade.